Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. La communauté internationale appelée à s'impliquer véritablement pour le retour de la paix dans cette région. Appel lancé par la Fondation des leaders pour la paix. La délégation rencontrée hier à Kinshasa les présidents des deux chambres du Parlement congolais. Conditions de vie difficiles pour plus de 1400 Congolais expulsés de l'Angola et qui se trouvent à la frontière de Kamako au Kasaï. Ce mouvement d'expulsion a commencé début mars en cours, alerte le chef de programme national de l'hygiène aux frontières. Madame, Messieurs, bonjour. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, au centre d'un échange hier au Parlement, la délégation de la Fondation des leaders pour la paix, conduite par l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, a successivement conféré avec le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. L'ancien Premier ministre français et chef de la délégation s'est dit très sensible à la situation qui sévit dans l'Est de la RDC. Il a saisi cette occasion pour lancer un appel à la communauté internationale afin qu'elle s'implique véritablement pour le retour de la paix dans cette région et qui continue à enregistrer des pertes en vies humaines suite au drame qui s'y déroule. Jean-Pierre Raffarin est au micro de Michel Kifindangoy.
Nous sommes très sensibles au malheur des populations qui aujourd'hui souffrent la guerre et qui sont aujourd'hui souvent d'être déportées. Nous sommes très très sensibles aux efforts qui sont faits dans tout le pays pour conduire à la paix. Et nous voulons aussi exprimer une préoccupation de la communauté internationale que nous représentons de manière très libre pour que les sujets de la République démocratique du Congo soient pris en compte par la communauté internationale. Il y va du développement économique et social, mais il y va aussi de toutes les douleurs et les souffrances que la guerre fait vivre aux déplacés, à toutes ces femmes qu'elle mutile et à tous ces enfants déracinés. Et c'est pour cette recherche de paix que nous sommes très heureux avec l'ensemble de la délégation. Nous voulons exprimer les chemins de la paix et la nécessité pour les Congolais d'une paix durable. Et tout ceci demande du travail. Notre conviction, c'est que la paix ne tombe pas du ciel. La paix, c'est un travail. Ce sont des discussions, quelquefois, avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Et c'est cet effort auquel nous contribuons modestement, mais avec détermination.
Cette délégation est venue à Kinshasa pour rencontrer les autorités politiques afin de réfléchir sur la question liée au retour définitif de la paix en RDC. La Fondation des leaders sur la paix regroupe plus de 40 personnalités engagées dans la recherche de la paix à travers le monde. Sur place au Nord Kivu, entre-temps, la situation sécuritaire demeure préoccupante dans les secteurs de Mpati, Kibashiro, Bibwe et Nyangé, dans le groupement Bachalimokoto, territoire de Masisi. C'est à la suite des combats enregistrés le week-end dans cette région entre d'une part les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et d'autre part les FARDC et les forces d'autodéfense. Florida Kahambu.
D'après nos sources dans la région, la population s'est dispersée dans la brousse, fuyant ces combats. Les rebelles du M23 qui s'étaient retirés de Kichanga et Mweso pour se concentrer à Busumba, Kirumbu et Kibachiro ont attaqué les positions des FARDC avant de progresser dans d'autres petites entités, notamment Bibwe, Nyangé, Kitso et Aviron. Ces rebelles et leurs soutiens chercheraient à se diriger vers Pinga et Lukweti. La situation humanitaire s'est nettement dégradée dans cette région depuis le mois de janvier à cause des affrontements de Kichanga et Mweso. Les habitants vivent dans l'errance d'un milieu à l'autre sans assistance ni médicaments.
Dans le territoire de Walikale, toujours au Nord Kivu, les opérations d'enrôlement des électeurs ne connaissent pas d'engouement dans certaines zones enclavées, notamment sur l'axe Ombo-Chambucha. Ce constat a été fait par un activiste local de développement qui a parcouru cette région pendant cette période d'enrôlement. Émile Mwombo, coordonnateur de l'Association pour le développement des activités environnementales et communautaires, explique que les tracasseries au niveau des barrières illégales érigées par les hommes armés et la dégradation de l'état des routes empêchent la population à aller massivement s'y faire enrôler et cela risque d'impacter négativement sur le résultat de l'enrôlement dans cette partie. Émile Mwombo au micro de Sifa Maguru.
Puisque les habitants ne manifestent pas l'engouement, n'ont pas le courage d'aller se faire enrôler, puisque tout simplement il y a des difficultés. D'abord d'enclavement, il y a une dégradation très avancée des routes dans la zone de Walikale. Aussi, il y a des multiples barrières illicites avec des rançons vraiment demandées à la population, n'encourage pas la population à aller au centre d'enrôlement. Ces barrières sont érigées par des éléments des groupes armés, mais aussi nos éléments des FARDC non contrôlés. Ils sont variés entre 1500 et 500 francs. Alors c'est pourquoi nous venons auprès de l'autorité, auprès de notre gouvernement, faire le plaidoyer pour que ces barrières soient balayées et pour que la zone de Walikale soit désenclavé, que les routes soient réhabilitées, entretenues pour faciliter la circulation de la population. Et ça va contribuer au bon résultat d'enrôlement. Nous étions à Lukaraba, à Chambucha, à Hombo. Je vais citer le centre de Itebero, le centre de Dentoto, Kimua, le centre de Kailenge, le centre de Buyimba, dans les Waloa.
Émile Mouombo ajoute avoir observé également quelques problèmes techniques, mais aussi les conditions de vie des agents de la CENI qui sont difficiles dans cette région reculée. Par ailleurs, la CENI informe l'opinion que la clôture des centres d'inscription de l'ère opérationnelle 2 intervient ce mardi 21 mars à 17h heure locale, conformément au communiqué de presse du 10 mars 2023, accordant une période de récupération de 10 jours allant du 11 au 20 mars 2023. Par conséquent, les membres des centres sont priés de distribuer des jetons aux requérants présents dans les files d'attente au dernier jour. Toutefois, compte tenu des difficultés de fonctionnement rencontrées pendant la période de récupération dans certains centres d'inscription, une période de récupération leur sera accordée selon le cas. Les provinces et pays concernés de l'aire opérationnelle 200, Okatanga, Kasai, Kasai Oriental, Kasai Central, Olomami, Lualaba, Lomami, Sankuru, Tanganyika, Afrique du Sud, Belgique et France. En Ituri, l'administrateur du territoire de Mahagi condamne l'attaque de samedi dernier dans la localité de Djupagasa, chefferie de Pandourou, attaque qui a fait 27 morts selon un bilan actualisé. Le colonel Jacques Dissanoa dit déplorer ces actes qui interviennent après plusieurs appels à la cohabitation pacifique lancés par différentes parties. Il appelle les leaders du groupe armé Codeco, présumés responsables de ce carnage, à respecter leur engagement de cessation des hostilités pris à Nairobi. À la population, l'autorité du territoire demande de ne pas recourir à la violence. Un extrait de ses propos choisi par Jean-Claude Loki.
Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent une fois de plus les attaques de la milice Codeco sur la paisible population, causant ainsi la mort des civils dans la localité de Djupazaga, groupement Ngote en chefferie de Pandour. En dépit de nombreux appels relatifs à la cohabitation pacifique et au respect de leur acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités par certains notables, la milice Codeco continue à massacrer les vulnérables. Je demande à tous de ne pas céder à l'intoxication et de se confier aux forces de défense et sécurité pour que justice soit faite. Je vous rassure que les forces armées de la République démocratique du Congo sont à la poursuite de l'ennemi pour le mettre hors d'état de nuire.
Je vous l'ai dit dans les titres, plus de 1400 Congolais ont été expulsés de l'Angola et se trouvent à la frontière de Kamako au Kasai dans des conditions difficiles. Ce mouvement d'expulsion a commencé depuis le 6 mars, alerte le chef de programme national de l'hygiène aux frontières. Selon Christian Mabedi, l'Angola soutient que ces Congolais vivent dans une situation irrégulière et la plupart se trouvent dans les mines de diamants alors que la pratique est actuellement interdite. Déplorant les conditions d'expulsion de ses compatriotes et la situation dans laquelle ils vivent à la frontière, il interpelle les autorités congolaises et les humanitaires sur cette situation. Christian Mabedi, dans ses propos recueillis par François Kadima.
Depuis le 6 mars jusqu'au 19, nous avons constaté l'augmentation des mouvements d'expulsion des compatriotes congolais qui vivent en Angola de façon irrégulière. Soit ils sont ramassés dans des mines de diamants, soit au marché. Ces derniers temps, ce que nous accueillons, ils disent qu'ils viennent de Kalonda, de Lukapa, d'Enzaji, de Fukauma et ailleurs. Ils sont expulsés de façon purement inhumaine. Ils sont déversés comme ça au point d'entrée de Kamako. Nous pouvons compter à partir du 6 jusqu'à hier le 19, 1419, hormis les volontaires. Pourquoi nous alertons communauté humanitaire et le gouvernement de prendre la responsabilité pour la prise en charge de ses compatriotes.
Et puis, Radio Okapi poursuit sa série de reportages sur le contrat minier signé entre la RDC et un groupement d'entreprises chinoises. Dans le premier reportage diffusé hier, nous avons passé en revue l'économie générale de cette convention. Ainsi, plusieurs infrastructures n'ont pas été construites comme prévu, d'où la demande actuelle des autorités de la RDC à revisiter cette convention signée en 2008. Mais quelle est la position de la Chine face à cette pression de la partie congolaise, Cynthia Bachizi?
L'ambassade de Chine, à travers son porte-parole, a réfuté en bloc toutes les accusations. Pour autant, 4 jours après la publication du rapport de l'IGF, la partie chinoise avait annoncé vouloir décaisser une enveloppe supplémentaire de 500 millions de dollars américains. Décision prise avant la publication du rapport de l'IGF, selon la SICOMINE. Mais pour le Centre de recherche en finances publiques et développement local CREFEDEL, il faut des préalables. Valérie Mantianga, directeur général.
Nous avons demandé au gouvernement de sursoir les négociations sur l'utilisation probable du décaissement de 500 millions de dollars annoncé par la SICOMINE. Nous osons croire que les entreprises chinoises qui ont déjà exécuté le 40 projets d'infrastructure ont failli à leur mission. Parce que pour nous, l'audit devrait également conduire à ce que l'IGF et la Cour des comptes proposent au gouvernement un manuel de procédure de gestion de tous les projets qui seront exécutés dans le cadre de cette convention.
En outre, l'Union des sociétés minières aux capitaux chinois a récemment saisi par écrit le président Félix-Antoine Tshisekedi pour trouver une solution amicale de ce dossier. Cette plateforme se dit également résolue à soutenir notamment la SICOMINE dans la défense de ses droits si nécessaire.
Au Maniema, parlant de cet appel du secrétaire provincial du syndicat des enseignants, SIECO, il exhorte ses collègues grévistes à privilégier l'intérêt des enfants en reprenant les enseignements. Par ailleurs, Maoulou Mwanda Mukute demande au gouvernement de respecter ses engagements envers les enseignants pour éviter ces mouvements de grève qui impactent négativement sur le calendrier scolaire. Le secrétaire provincial du SIECO Maniema est au micro de Florence Kiza.
Ce qui est vrai que les revendications des enseignants ces derniers temps sont vraiment fondées. En ce sens qu'il y a des enseignants qui vous réalisent 50 jours, 60 jours sans être payés. Ce qui n'est pas normal. Pourquoi? Parce que le salaire a un caractère alimentaire. Et quand quelqu'un doit être affamé pendant un mois, deux mois, je pense que c'est vraiment inhumain. Mais est-il que la grève a certains préalables? Et dans ce préalable, il est question de voir si en ce moment-ci, on peut lancer la grève. Est-ce qu'on va obtenir gain de cause? Et si on voit que en lançant la grève, on n'obtiendra pas gain de cause, autant ne pas faire la grève que de la faire échouer. Chez nous, au syndicat, il y a un principe qui dit la meilleure grève est celle qu'on ne fait pas. C'est ce que je peux inviter les camarades. Chaque fois qu'il y a lieu de poser un acte, qui se réfère à moi qui suis leur responsable? Pour, comme ça, je peux leur indiquer les chemins à suivre pour peut-être réussir ou voir comment on peut relancer d'autres actions dans l'avenir. Le calendrier scolaire souffre. Je condamne le gouvernement qui ne veut pas réaliser ses engagements. De l'autre côté, les camarades enseignants oublient qu'en lançant une grève qui ne va pas aboutir, ce sont les enfants qui sont les premières victimes.
À présent, la suite de notre série de reportages consacrée à la province du Nord-Ubangi, l'hôpital général de référence de Gbadolite, chef-lieu de la province, non repris dans le programme de développement des 145 territoires, se trouve dans un état piteux, dépourvu de tout. Cet établissement ne reçoit ni dotation publique ni frais de fonctionnement. Il n'a pas d'intrants, pas de matériel et moins encore des médicaments depuis le passage du dernier partenaire extérieur. Le patient achète tous les nécessaires pour la consultation et les soins. La fondation des Denise Nyakiru a promis son appui à cet hôpital, mais pour l'instant, seule la maternité est réhabilitée, mais pas encore équipée. Le bloc opératoire n'a reçu que la peinture. Le docteur Rodrigue Mvula, médecin directeur de l'hôpital général de Gbadolite, explique la situation au micro de Daniel Tambinzoni.
La literie, l'hôpital a une capacité de au moins 128 lits. Mais s'il faut compter les lits en bon état, nous n'allons pas dépasser les 50. Concernant les médicaments, l'hôpital est dépourvu presque de tout médicament. En dehors des antipaludéens qui sont donnés gratuitement à l'hôpital, mais tous les autres produits, on est obligé de demander aux malades d'aller acheter dehors. Même les solutés, nous n'en avons pas à l'hôpital.
En termes de dotation du gouvernement, en termes de frais de fonctionnement, l'hôpital ne reçoit plus rien?
L'hôpital ne reçoit absolument rien.
Comment vous faites avec les recettes, avec ce que les ménages payent?
Oui, dans 100%, c'est ce que les ménages payent. Et dans les 100%, il y a les 30 qui sont canalisés pour chercher tant soit peu un médicament pour permettre à ce que quand un malade vient ne fût-ce qu'à l'hôpital, qu'il puisse avoir ne fût-ce que le premier soin. Mais en dehors de cela, tous les autres produits sont achetés dehors par le malade lui-même.
Même une seringue?
Même une seringue, même des solutés.
Actualité internationale.
Les Sud-Africains sont descendus hier dans la rue pour manifester contre le président Cyril Ramaphosa, ce à l'appel de la formation politique de l'opposition. Le président de l'Afrique du Sud est jugé incapable de proposer des solutions au chômage, à la pauvreté et aux terribles coupures d'électricité qui affligent le pays. Des manifestations ont eu lieu dans diverses villes sud-africaines sur fond des grandes mobilisations policières. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.